R22 tout le monde, antenne Kiasma.
Moi je voulais juste introduire la soirée sur une actualité qui nous touche particulièrement, qui concerne un autre média d'information qui s'appelle Yata, qui est à Toulouse et qui vient d'être pris sous le coup d'une information judiciaire. Suite à un article qui est paru, donc yata.info, c'est un site d'information collaboratif, participatif et anti-autoritaire en ligne, basé à Toulouse. C'est-à-dire que les gens envoient des propositions d'articles qui sont ensuite réfléchis, discutés en collectif et publiés sur le site d'information. Il y en a un dans le même genre à Tours qui s'appelle La Rotative et un autre à Paris qui s'appelle Paris Lutte Info. Et là, dernièrement, un article a été publié suite à une manifestation concernant les violences policières en février dernier. Un article est paru en compte-rendu de cette manifestation. Et la personne qui avait écrit l'article essayait de tirer des conclusions stratégiques, bon, pas forcément, dans lesquelles on ne se reconnaît pas forcément tous. Par rapport aux charges policières et cet article a été lu par la police et la personne qui avait ouvert le site Yata, qui a déposé son nom pour l'hébergement du site Yata, est aujourd'hui poursuivie pour provocation publique à la commission d'un délit ou d'un crime, c'est-à-dire en gros pour avoir laissé passer un article qui appelait à se défendre contre la police. Voilà. Et donc c'est quelque chose qui nous touche assez puisque ça concerne assez ce qu'on fabrique, à savoir essayer d'avoir une expression qui soit pas une liberté d'expression qui soit pas celle des journaux calibrés, des journaux mainstream, c'est-à-dire une liberté d'expression vraiment libre qui se permette aussi de critiquer les agissements de la police. Voilà. Rappelant que récemment, et je vais les citer parce que c'est important. Et ensuite, je passe la parole et j'arrête avec ces bêtises et je vous fais passer le tract d'information. Mais récemment, c'est plus d'une dizaine de personnes qui ont été tuées par la police ou suite à des poursuites de flics à leur trousse. Donc Amadou Koumé à Paris, Abdelak Gorafia à Roissy, Pierre Caillé à Saint-Denis, Abdoulaye Karama au Havre, Morad à Marseille, Houssine Bourras à Colmar, Bilal Zobonayo à Tours, Rémi Fraisse à Sivens, Timothée Lac à Toulouse. Voilà, c'est des gens qui donc sont morts suite à l'agression policière et dont les coupables ne seront sûrement jamais inquiétés ou si peu. Voilà, donc je fais passer ça et je passe la parole à Mathieu.
Donc bonsoir, je vais vous présenter d'abord la revue Jeff Clack et puis le numéro, donc le deuxième numéro qui s'appelle Bout de ficelle. Alors globalement, Jeff Clack, donc c'est une revue qu'on a appelée de critique sociale et d'expérimentation littéraire. On a fait un premier numéro qui s'appelait Marabout. Le deuxième c'est Bout de ficelle. Notre parti pris en fait initial, c'est de déplier la comptine des trois petits chats, marabout, bout de ficelle, selle de cheval, cheval de course. L'idée étant que chacun de ces éléments de la comptine donne en fait le thème principal de la revue. Donc le premier numéro qui était marabout nous a amené à explorer en fait la question de la magie et des liens entre croire et pouvoir. Ce numéro-ci, on s'intéresse au textile, mais j'y reviendrai. Jeff Clack, donc ça veut dire aussi en flamand l'homme de la rue. Voilà, c'était une manière aussi pour nous de dire que derrière en fait ce nom, il y a tout un collectif d'une trentaine de personnes qui viennent voilà, de milieux et de sociaux professionnels très divers, puisqu'il y a à la fois des journalistes, des chômeurs, des libraires, des éditeurs. L'idée étant justement de se refléter un peu dans ce nom qu'est Jeff Clack. Donc on est très attaché à ce fonctionnement collectif qui est une des spécificités de la revue puisqu'on on travaille voilà, tous autant que possible autour des textes et de la fabrication de la revue, des thèmes à définir et des problématiques à tirer des numéros, enfin des noms justement que sont Marabout, Bout de Ficelle. Une des grandes spécificités aussi de la revue, donc, c'est de croiser en fait différents genres. Donc il y a bien sûr, on va dire, ce qui ressort des sciences humaines, sciences sociales et qui fait résonance à ce qu'on appelle la critique sociale. Et puis il y a aussi des enquêtes de terrain, il y a des entretiens, il y a voilà, des formes d'essais. Et puis à côté de ça, il y a de la littérature aussi, donc il y a des textes de fiction. En lien ou pas avec le thème, plutôt d'ailleurs pas. Et puis on a voulu aussi, et vous le verrez aussi dans les revues, plusieurs chroniques en fait qui reviennent régulièrement, qui traitent de musique punk, de séries télé, de bandes dessinées. Voilà. Donc c'était une manière pour nous de dire que on peut être intéressé par des sujets politiques tout en étant aussi, ça nous est apparu évident, en étant traversé aussi par d'autres formes, d'autres sujets, d'autres genres, qui, et on voulait que la revue soit à l'image de ça. Et effectivement, il y a un CD de création sonore en fait, dont l'objectif est de prolonger le thème. Donc par du son. Donc il y a dans chacune des revues un CD qui sont des créations sonores originales qui ont été créées donc spécifiquement pour la revue et sur le thème traité. Un petit mot sur Bout de Ficelle et ce qu'on a voulu faire avant de lancer la discussion. Donc Bout de Ficelle, on s'est intéressé au tissu, au textile. En tout cas, on a choisi de circonscrire en fait le sujet à cet objet finalement quotidien qu'est le vêtement. On est d'abord parti en fait, il y a deux, on va dire, il y en a beaucoup, vous verrez, mais il y a deux grands pans qui traversent un peu la thématique et donc ce numéro. Le premier en fait, c'est de dire que le vêtement, le textile, est au cœur en fait du système capitaliste depuis le milieu du 19e siècle. Donc on s'est intéressé un peu à l'histoire de la production en fait du textile, en montrant aussi comment il a été au cœur du système colonial et comment aujourd'hui, par différents aspects aussi, notamment avec tout ce qui est textile intelligent, les délocalisations, etc., il continue d'avoir une actualité forte dans ce champ économique et social. Et puis, nous est apparu aussi un deuxième point assez vite, qui est qu'en fait, se vêtir, c'est aussi affirmer une identité, c'est aussi se dévoiler ou pas, d'ailleurs. Du coup, donc on a été amené à travailler sur la question du genre, la question aussi des minorités qui souvent aussi se marquent ou se démarquent en tout cas par des codes vestimentaires qui leur sont propres. Et on a voulu explorer aussi ces champs-là, ce qui nous a amené en fait aujourd'hui, à travers les trois intervenants que Raphaël va présenter, on a voulu essayer de tirer le fil de la question des minorités et de la réappropriation notamment des codes vestimentaires, et comment finalement le vêtement peut aussi avoir une charge politique en soi, et dans quelle mesure les différentes minorités peuvent se réapproprier des codes vestimentaires dominants, peuvent transgresser une norme dominante. Donc ça va être un peu le fil rouge de la discussion d'aujourd'hui.
Merci. Alors effectivement, la question un peu, je dirais, technique qu'on s'est posée pour préparer cette soirée, c'est comment vous parlez d'une revue ? Comment vous parlez de toutes les choses qu'il y a dans ce pavé quand même de presque 320 pages en faisant en sorte que vous en retiriez quelque chose. Et on s'est dit que l'important et ce qu'on travaille à Jeff Clack, c'est de donner la parole à un certain nombre de gens. Et en allant chercher cette parole, en donnant cette parole, des choses nous apparaissent. Des choses nous apparaissent auxquelles on ne pensait pas forcément au départ lorsqu'on a commencé à travailler ce thème-là. Et comme Mathieu vous l'a dit, au départ, forcément, on parle du textile et on pense tout d'abord aux questions liées au capitalisme, à l'histoire de la production industrielle. Et finalement, ces questions du genre et des minorités nous sont apparues un peu, finalement, un peu malgré nous. Mais elles ont surgi. Et elles n'auraient pas pu surgir sans que nous soyons un collectif décidant de faire cette revue. Donc finalement, pour répondre à la question, la meilleure manière de présenter la revue ce soir, c'est d'inviter des gens qui ont, a priori, vu d'un peu loin, pas grand-chose à voir dans leurs travaux de recherche. Mais finalement, une revue, elle met ces gens-là en commun, et c'est ce qu'on essaye de faire ce soir. Alors c'est pour ça qu'on a invité des personnes qui sont intervenues, d'une manière ou d'une autre, dans la revue, pour qu'ils vous parlent à la fois de ce qu'ils ont fait, de leurs propres travaux, mais on leur a également demandé, et je sais qu'ils se sont prêtés au jeu et je les en remercie d'avance, on leur a également demandé de lire les articles des deux autres personnes invitées pour avoir un point de vue, disons, extérieur sur ce qu'on fait, et voir comment une revue peut dialoguer et comment on peut mettre en acte, c'est ce que nous faisons ce soir, ce qui est écrit dans cette revue. Alors c'est pour cela que ce soir on s'est focalisé autour de cette question des minorités et de ce que finalement ce que porter un vêtement veut dire, ce que s'habiller veut dire. Et on va faire un parcours ce soir à travers différentes formes de subjectivité de la manière dont on porte un vêtement dans différents contextes, à travers des choses qui a priori semblent éloignées. Alors pour vous en parler ce soir, on a invité, je vais montrer quand même un peu les livres, parce que c'est important quand même de rappeler que ça vient aussi, leurs travaux viennent aussi de recherches assez approfondies. Alors, Rachel Vinet-Krupa, voilà, qui a écrit un livre qui se trouve d'ailleurs sur la petite table là-bas. C'est une biographie textile de Frida Kahlo intitulée « Un ruban autour d'une bombe ». Donc une artiste mexicaine bien connue, elle nous en dira plus tout à l'heure, qui jouait avec une certaine manière de s'habiller. Et Rachel signe une brève biographie textile de Frida Kahlo dans le numéro bout de ficelle de Jeff Clark que certains ont déjà entre les mains. Tout à ma droite, Frédéric Siriez, donc qui est écrivain, je monte quand même, son livre, son deuxième roman Mélo, qui traite notamment de la question des sapeurs. Alors peut-être que vous savez, il va nous en dire plus tout à l'heure, mais les sapeurs vient du mot SAP, c'est l'acronyme de Société des ambianceurs et personnes élégantes, j'espère que je me trompe pas. Et Frédéric Siriez n'a pas écrit dans la revue, dans Bout de ficelle, mais nous l'avons quand même invité. Alors pourquoi ? Parce que il a quand même été, je crois ne pas me tromper, ou je crois ne pas trahir la démarche de ce papier, il a quand même un peu inspiré un des articles de cette revue, qui s'intitule « Je cocotte, mais c'est la classe », signé par Émilien Bernard, qui est caché quelque part dans cette salle, et qui a pu rencontrer, enfin il vous en dira plus tout à l'heure, mais un sapeur dans une boutique dont Frédéric Siriez parle dans son ouvrage. Enfin, à ma droite, Nassim Aboudrar, donc, qui est professeur d'esthétique à la Sorbonne, à Paris 3, qui a signé un livre l'année dernière qui s'appelle « Comment le voile est devenu musulman ?» qui m'a paru enfin tout à fait intéressant en le lisant et tout à fait étonnant dans ses propositions et dans son approche, car je pense encore une fois pas trahir ta pensée, Nassim, en disant que c'est une approche qui, sur le voile musulman, qui n'est ni directement sociologique ni féministe, ou qui ne se pense pas autour de la question de la laïcité comme on pense souvent et à mon avis malheureusement la question du voile aujourd'hui en France, c'est un regard esthétique et en termes d'histoire de l'art sur le voile musulman. Donc à travers ces trois thèmes et à travers la manière dont Frida Kahlo s'habille, dont les sapeurs s'habillent et dont des jeunes femmes musulmanes ou moins jeunes portent le voile aujourd'hui, on va poser cette question de ce que s'habiller veut dire. Donc on va commencer par Rachel, si tu veux nous présenter un peu ton travail sur Frida Kahlo.
Bonsoir. Alors, donc, dans la revue Jeff Clark, je suis l'auteur d'un article qui s'intitule « Le vêtement comme seconde peau ». Et ce que je vous propose de faire, de parcourir dans cet article, c'est la vie et l'œuvre de Frida Kahlo à travers sa garde-robe. Alors, c'est assez original d'aborder l'œuvre de Frida Kahlo sous cet angle, mais c'est dû au fait en fait qu'il y a peu d'artistes comme Frida Kahlo qui a mis en scène sa garde-robe dans son œuvre autant qu'elle. Les titres de certains de ses autoportraits en témoignent, par exemple l'autoportrait à la robe de velours, ma robe est suspendue là-bas, ou autoportrait en costume de Tijuana. De son vivant, en fait, Frida Kahlo, c'était déjà une icône de la mode. Elle fait la couverture de Vogue, du magazine Vogue en 1939, et la même année, la couturière Elsa Schiaparelli lui consacre une robe. Et aujourd'hui encore, en fait, Frida Kahlo, elle inspire de nombreux couturiers comme Christian Lacroix ou Jean-Paul Gaultier. L'analyse de son vêtement dans son œuvre peut paraître un petit peu futile, anecdotique, frivole, mais en fait, à travers les vêtements qu'elle choisit de porter, ces vêtements, ils disent beaucoup de choses sur son identité, sur ce qu'elle est en tant que femme, en tant qu'artiste, sur ses convictions politiques aussi, et sur ses positions indigénistes. En fait, Frida Kahlo, elle fait partie des artistes mexicains post-révolutionnaires. Son travail commence après la Révolution mexicaine. Après la Révolution mexicaine, elle s'engage dans des études de médecine. Elle entre en école préparatoire à l'école de médecine. Elle est une des 35 filles sur 2000 élèves à être inscrite. Donc c'est un public essentiellement masculin. Elle va essayer de se démarquer déjà à l'époque revêtant des costumes d'hommes. Et puis, il s'avère que durant ses études, elle est victime d'un accident de la route. Donc elle est obligée d'arrêter ses études de médecine. Et puis elle se met, durant sa convalescence, à peindre. Et le premier autoportrait en fait qu'elle réalise, c'est l'autoportrait à la robe de velours. Donc déjà dès ses premières compositions en fait, elle met le vêtement au centre de sa création. Et dans cet autoportrait, alors que lorsqu'elle était étudiante, elle s'affiche avec des costumes d'hommes pour se démarquer des autres étudiantes, là, elle revendique une certaine forme de féminité. C'est pas anecdotique parce que durant son accident, elle apprend que donc il y a une main courante qui traverse, donc c'est un accident d'autobus, il y a une main courante qui traverse en fait son bassin, et elle apprend qu'elle ne pourra jamais avoir d'enfant. Donc à cette époque, en fait, elle va revendiquer une certaine forme de féminité, alors qu'elle apprend qu'elle ne pourra jamais être mère. Et en 1928, elle s'engage politiquement dans le Parti communiste mexicain, et elle rencontre celui qui deviendra son mari, Diego Rivera. Lui est déjà un artiste reconnu. Et dans ses tableaux, il met en valeur le peuple mexicain et essentiellement les populations indigènes, toutes les personnes les muses qu'il représente, même si elles sont issues de la bourgeoisie mexicaine, d'ascendance européenne, il va les représenter dans des costumes traditionnels mexicains. Et Frida Kahlo, pour le séduire, va changer de code vestimentaire et se mettre à porter elle aussi des costumes traditionnels mexicains. Après leur mariage, Diego Rivera et Frida Kahlo, ils vont partir pour un séjour de 3 ans au Mexique. Et aux États-Unis, merci. Aux États-Unis. Et durant ces jours, en fait, Frida Kahlo, elle va emporter dans ses valises tous ses costumes, ses bijoux précolombiens. Et c'est là où ça va devenir pour elle le vêtement va devenir vecteur en fait de la revendication de son identité nationale. Parce qu'elle est au Mexique, elle s'y sent pas très très bien, elle côtoie la bourgeoisie mexicaine, et elle va afficher ses tenues mexicaines dans les soirées mondaines new-yorkaises, de Détroit, de San Francisco. Lorsque, en 1939, Frida Kahlo et Diego Rivera vont divorcer, on assiste à un changement radical dans sa façon de s'habiller. Donc je vous rappelle que du coup elle adopte le costume indigène mexicain, le costume indien, pour le séduire, et lorsqu'il divorce, elle va se réadopter les costumes masculins, que les costumes d'hommes qu'elle portait lorsqu'elle était étudiante. C'est la première femme artiste qui traite du travestissement dans sa peinture. Donc il y a un caractère assez révolutionnaire dans sa peinture en ce sens-là. C'est aussi la première femme qui va faire de ses appareillages orthopédiques, puisque toute sa vie, elle va subir de nombreuses interventions suite à l'accident dont elle est victime quand elle est étudiante. Elle va subir de nombreuses opérations, elle va être appareillée, elle va porter de nombreux corsets. À la fin de sa vie, elle sera amputée. Et c'est la première artiste aussi qui va faire de ses appareillages orthopédiques des véritables accessoires de mode. Donc au lieu de les cacher, elle va les montrer, elle va les représenter. Et ça aura un impact même sur... tout à l'heure, j'évoquais Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier va s'inspirer en fait des corsets que Frida Kahlo représentait dans ses tableaux pour en faire aussi des vêtements de mode. Et voilà, donc du coup, voilà, un sujet qui pourrait paraître en fait assez anecdotique nous dit beaucoup de choses. Enfin, le vêtement, voilà, nous dit énormément de choses sur la revendication de la mexicanité chez Frida Kahlo, l'expression aussi de son moi masculin lorsqu'elle traite du travestissement dans sa peinture. Ses convictions aussi politiques, donc elle était engagée dans le Parti communiste mexicain et elle fait du rouge sa couleur de prédilection, une affirmation aussi de son handicap en dévoilant, en mettant en scène aussi ses appareillages orthopédiques. Donc voilà. Donc c'est un petit peu je retrace dans cet article la vie de Frida Kahlo, c'est le fil conducteur, en fait le vêtement est le fil conducteur du récit biographique que je vous propose dans l'article de Jeff Clack.
Merci, donc finalement les usages d'un costume minoritaire au sens dans la société mexicaine lorsqu'elle le met en avant, il y a cette notion de transgression sur laquelle tu as insisté, alors maintenant j'aimerais peut-être entendre Frédéric Siriez sur... Je ne sais pas si c'est une transgression ou s'il y a un travestissement aussi dans ce que font les sapeurs en s'habillant d'une manière que tu vas nous décrire ou nous expliquer. Qui sont les sapeurs, que travestissent-ils et est-ce qu'ils promeuvent aussi une identité ou quelque chose qu'on pourrait qualifier de politique ?
Bonsoir à tous. Il y a beaucoup de choses dans ce que tu me demandes, tu vois. Donc qu'est-ce que je pourrais dire ? Tout d'abord, je félicite Emilien qui s'est sapé pour l'occasion en rencontrant le bachelor. Alors, qui est le bachelor ? Le bachelor, c'est le monsieur, qui est un peu monsieur sap, on va dire, à Paris, qui a une boutique rue de Panama à Château Rouge, et qui a révolutionné la sap dans son versant école de Brazzaville, en introduisant la couleur dans la sap. La sap, avant lui, c'était du noir et blanc. Avec le bachelor, c'est de la couleur. Alors, le bachelor dit, la sap, c'est l'art de faire chanter les couleurs. Il dit aussi, la sap, c'est l'art de s'aimer. Voilà. Alors, je serai bref. Après, on va poser des questions, on va discuter. Je dirais simplement que... Où est Natacha ? Elle n'est pas là, Natacha ? Natacha n'est pas là ? Oh. Natacha travaille, est une libraire formidable qui travaille aussi pour Jeff Clack. Et un jour, Natacha m'avait invité dans sa librairie d'atelier. Elle m'avait dit « invite deux personnes ». Invite deux personnes. Et donc, en fait, j'ai invité Annie Lebrun, que j'aime beaucoup, grande lectrice de Sade, qui s'intéresse à une certaine littérature que moi j'aime, et j'ai invité le bachelor. Donc je me suis retrouvé avec Annie Lebrun, le bachelor. Et je me suis dit, oh là là, zut, maintenant c'est compliqué, comment on fait quoi. Et j'ai été faire un tour du côté de chez Raymond Roussel, et je me suis replongé dans Impression d'Afrique. Impression d'Afrique commence par le naufrage d'un bateau qui s'appelle le Lindsay. Et en fait, une troupe de théâtre à bord s'échoue dans un royaume improbable d'une Afrique totalement imaginaire. Et en fait, cette troupe s'appelle la troupe des incomparables. La troupe des incomparables. Voilà. Je crois que c'est un point de départ pour commencer à comprendre la SAP. Donc ce que recherchent les sapeurs, c'est l'unicité. Voilà. C'est être unique, c'est s'affirmer à travers la quête d'une parure inégale, mais surtout inégalable. Voilà. Donc c'est une seconde peau, mais pas une peau de réparation sur un corps traumatisé. tel que tu nous le décris, Rachel, parce que c'est un petit peu ça quand même l'histoire superbe dans ton texte qui est magnifique de, sur Frida Kahlo. Ce sont des exhibitionnistes habillés. C'est donc un petit peu l'inverse du travail sur le voile pour interroger la distance du regard. Ce sont des exhibitionnistes vêtus qui, eux, s'inscrivent dans une sorte de double dimension de d'affirmation individualiste très très forte et de recherche d'admiration. Voilà, on est dans ce double mouvement. Pour le dire autrement, après je ne vais pas parler longtemps, je préfère qu'on discute tout ça, ce sont des héritiers du dandysme, donc d'une tradition européenne extrêmement codifiée, raffinée, qu'eux se sont réappropriés et pour le coup ont magnifié en allant très très loin avec le jeu sur les codes vestimentaires, comme on dit. C'est en même temps un défi. C'est un défi entre eux et c'est un défi aussi aux Blancs. Par exemple, un sapeur absolument génial qui s'appelle Joe Ballard, vous le trouverez sur Google, sur les petites vidéos YouTube. Joe Ballard a cette phrase magique, il dit à un moment, il dit dans une vidéo qui a peut-être 20 ou 25 ans, il dit « Je vais organiser une coupe du monde de la sape pour montrer que le blanc est fade. » Voilà. On est aussi là-dedans. C'est aussi un geste artistique très très fort. Ce jour-là, il avait 7 cravates autour du cou et donc le journaliste lui dit « Mais pourquoi vous avez 7 cravates ?» Et il dit « Bah, y a 7 jours dans la semaine, moi je les prends tous d'un coup. » Ce qui est pratique comme réponse. Voilà. Donc ce sont des artistes. Dernière petite chose, la sape, souvent, on la réifie un petit peu en ne montrant que de l'image. Il y a des très très belles photographies sur les sapeurs, etc. On dit finalement, la sape, c'est un mec qui s'habille bien, voilà, avec tous les clichés autour de ça. Mais la sape, c'est aussi du verbe, et tout ça, c'est indissociable, puisque par la parole, le combat a lieu, et l'idée, c'est de mettre à plat le concurrent. Et c'est aussi du mouvement, donc une sorte d'intermédiaire entre la marche et la danse, qui s'appelle la diatance. Voilà. J'arrête, on discutera, si vous le voulez bien, après.
Alors j'ai noté, comme vous tous, cette expression formidable d'exhibitionniste habillé, et je ne résiste pas, malgré tout, à poser à Nassim Aboudrar, donc la question, peut-être un peu osée, de savoir si, justement, porter le voile, ce n'est pas faire preuve d'un exhibitionnisme un peu habillé, parce que porter le voile, c'est, et j'ai appris cela d'une certaine manière en lisant ton livre, c'est montrer quelque chose. C'est montrer quelque chose au sein d'un régime de visibilité, mais tu vas nous expliquer cela, qui fait que le voile se voit alors qu'auparavant, et ton livre montre cela à travers une histoire du regard, alors qu'auparavant il ne se voyait pas.
Ça va ? Oui, merci, ça commence assez fort, s'il m'appartient de qualifier les femmes voilées d'exhibitionnistes habillées. Je dirais que non, et pour je dirais que non, pas dans tous les cas, mais je dirais que non globalement pour une raison, ce qui aussi servira non pas à introduire le débat, mais je pense que j'aurais envie d'échanger avec mes camarades de ce soir sur cette question, c'est que parce qu'elle me paraît très centrale pour la sape et pour Frida Kahlo, et elle est très décentrée sur ma question sur le voile, c'est que ces femmes qui se voilent elles ne mettent pas le voile en rapport avec leur propre corps, tandis que il me semble que la sape et Frida Kahlo posent constamment la question du nu. Alors c'est explicite dans l'article sur la sape, peut-être pas dans ton livre, mais dans l'article, j'ai noté un verbatim magnifique sur la nudité carrément, hein. Et c'est d'une certaine façon explicite aussi chez Frida Kahlo. C'est absolument ni explicite, c'est pas existant tel que chez les femmes voilées cette question du nu. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas dans l'exhibitionnisme. Je pense que c'est un rapport à soi. Ça mobilise un rapport à soi. Il s'agit de montrer. Alors, l'expression d'exhibitionnisme habillé, je l'ai noté aussi, elle est magnifique, mais elle renvoie forcément à du corps derrière. Je pense que le voile renvoie pas à du corps derrière, sinon éventuellement à du corps social. Et c'est pas ce dont je me suis occupé dans mon bouquin. Donc voilà, c'est pas une manière de botter en touche, mais je pense. Alors, je ne pense pas que ces femmes soient des exhibitionnistes habillées. En revanche, elles deviennent, et ça c'est extrêmement paradoxal, elles deviennent en Europe. Alors ensuite, je suis tout à fait ouvert au débat et je voudrais préciser, enfin je serais amené peut-être à préciser les choses, mais quand les femmes voilées, quand elles sont libres de se voiler, c'est-à-dire dans les pays où elles ont la liberté de le faire, deviennent, assument, volontairement, puisqu'elles sont, elles sont libres de le faire ou non, un statut très particulier qui est celui d'image de l'islam. Et d'ailleurs, c'est comme ça que ça fonctionne et c'est pour ça que, qu'on est tellement réactif à ça, c'est-à-dire qu'elles sont des sortes de figures ambulantes de l'islam, d'image de l'islam. Elles ne s'exhibent pas, mais elles exhibent l'islam. Or, il ne vous a pas échappé que l'islam, une des particularités de cette religion, c'est qu'elle est normalement, qu'elle a été pendant des siècles et des siècles, ce qu'on appelle en jargon universitaire aniconique, c'est-à-dire qu'elle ne produisait pas d'image. Alors avec des différences un petit peu fines par rapport à la religion juive qui ne produit pas d'image et qui les interdit, l'islam ne les interdit pas complètement, elle laisse éventuellement les non-musulmans faire des images, simplement elle les déprécie. Alors il y a aucun commentaire sur l'image dans le Coran, il faut savoir qu'il n'y a aucun commentaire sur le voile non plus, ce n'est pas du tout une notion coranique. Mais alors que dans les traditions musulmanes qu'on appelle les hadiths, il n'y a aucun commentaire non plus sur le voile, il y en a par contre de nombreux sur l'image, et on sait que le prophète ne les aimait pas, et que de fait, globalement, à part toutes petites exceptions que l'on monte en mayonnaise, si j'ose dire, en Europe, parce que ça produit des images très belles, mais bon, il s'agit globalement de ce qu'on appelle la miniature persane, mais qui est extrêmement rare, uniquement dans des bouquins, donc totalement privé, etc. On a une idée complètement faussée de ce que c'est. Globalement, il n'y a pas d'image dans l'islam, il n'y a particulièrement pas d'image dans l'islam sunnite, ce qui veut dire que, je le rappelle quand même dans mon bouquin, que jusqu'à l'arrivée de la photographie au début du XXe siècle et avec beaucoup de réticence dans le monde arabo-musulman, dans des villes du Maghreb par exemple, on mourait sans jamais avoir vu une image. Il n'y en avait pas dans les livres, il n'y en avait pas dans l'enseignement, il n'y en avait pas dans les mosquées, il n'y avait pas de photos, il n'y avait pas de gravures, on ne savait pas ce que c'était, imaginez-vous ça, on ne savait pas ce que c'était qu'une image. Dans cette société qui, pour des raisons parfaitement compréhensibles, parfaitement respectables aussi, refusait c'est pas seulement qu'il refusait les images, c'est qu'il refusait tout type d'ostentation et qu'il pratiquait ce que j'appellerais une ascèse du regard, qui elle est coranique, c'est-à-dire l'idée de baisser les yeux, de se voir le moins possible, l'idée étant globalement que le regard est une chose dangereuse, une chose pécamineuse. Et là-dedans, les femmes étaient voilées, mais la question n'était pas celle de leur voile, elle était celle de leur invisibilité. C'est-à-dire qu'avant tout, les femmes étaient cachées, et quand il fallait absolument qu'elles sortent, elles sortaient dans un costume le plus banal possible, le plus gris possible, identifié à la couleur des murs, dont je vous rappelle qu'ils sont cholés dans le Maghreb, et le haïk qui est un vêtement blanc, et ça va très bien. Et idéal. Et le voile était juste un dispositif d'invisibilisation des femmes, ce qui n'est pas une chose merveilleuse hein, sur le plan du féminisme. Je suis absolument d'accord avec ceux ou celles qui auront envie de me le dire. Je ne fais pas du tout une défense du voile, mon bouquin est neutre par rapport à ça. Simplement, c'était un processus d'invisibilisation. Et puis, ce système visuel s'est effondré. Globalement au moment où le monde musulman a cédé à la photographie, a cédé à la nécessité de la photographie à partir de la photographie au cinéma, etc. Alors ça s'est pas fait de façon simple, ça s'est pas fait sans résistance. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a encore un quelconque prince d'Arabie Saoudite qui est mort dans des luttes contre l'arrivée de la télévision en Arabie Saoudite dans les années 50. Hein, c'était un prince. Il y a eu des séditions très violentes. Il y a eu la photographie s'est installée, on le sait assez bien, la photographie s'est installée dans le monde arabe, en fait, par les minorités chrétiennes et par les minorités juives, qui ont d'abord installé seulement au XXe siècle des magasins de photos, puis tout le monde s'y est mis, c'est tellement extraordinaire la photographie, puis par ailleurs ça permet ça a des tels avantages politiques quand il s'agit de montrer le visage du chef, que globalement ce monde-là a cédé à la photographie, puis maintenant a totalement cédé à Internet, bien sûr. Donc ce monde qui récusait les images s'est trouvé pris dans un autre système qui est notre système occidental, qui lui donne une très très grand pouvoir à la vue. Globalement, en Occident, depuis Platon, et c'est repris par le christianisme, tout est autorisé à la vue. sauf éventuellement l'obscénité, et encore, il y a une image pornographique depuis toujours. Mais autrement, tout est autorisé à la vue, et les images sont là pour faire plaisir à la vue en permanence. Et du coup, on arrive à cette chose tout à fait paradoxale, double paradoxe, primo. Enfin, c'est ça que j'ai essayé de montrer dans mon bouquin. Primo, que les femmes voilées sont des images de l'islam, donc des images d'une religion sans islam, et deuxio, que quand elles mettent un voile, elles peuvent très bien, il y a une forme de clivage de la conscience, clivage que nous avons tous, hein. C'est pas une particularité qu'elles ont, qui d'un côté, elles peuvent savoir intellectuellement que le voile est un instrument de coercition dans des pays où les femmes sont forcées de se voiler, mais c'est aussi ailleurs et différemment un instrument d'affirmation d'une appartenance culturelle, religieuse, etc., et aussi d'une appartenance à une culture qui, en Europe, est constamment méprisée, minorée, puis surtout qui a quand même vécu le traumatisme colonial, pour lequel le voile a été aussi constamment, dans la colonie française, une question conflictuelle, parce que, alors, deux choses, et puis après je terminerai, deux choses qu'on ignore trop souvent. Primo, que la colonie française, notamment en Algérie, a constamment protégé le voile au point que la République française forçait les musulmanes à se voiler au titre du droit de la personne, au titre de ce qu'on appelle le droit de l'indigénat, et les forçait pas seulement à se voiler, elle les forçait aussi, la République, le féminin vient de République, elle les forçait aussi à accepter le mariage polygame, à accepter le mariage des filles mineures, etc. Tout cela était totalement garanti par la République française, pratiquement tant que la colonie a duré. Puis ensuite, quand la colonie s'est défaite, dans les années 50 et 60, alors là, tout d'un coup, il y a eu, il y a eu l'émergence d'un grand discours républicain qui avait été complètement oublié, qui était « Ah, plus de voiles, dévoilez-vous, mesdames, brûlez vos voiles ». Ça a été demandé de façon tout ce qu'il y a de plus officiel en Algérie. Nous allons toutes devenir sœurs, sœurs musulmanes, sœurs chrétiennes, sœurs républicaines, sœurs laïques, toutes sœurs, et vous allez commencer par bien entrer dans la République en brûlant votre voile. Et donc, il y a tout ça, c'est quand même dans la mémoire, dans la mémoire post-coloniale, comme on dit aujourd'hui, dans la double mémoire, dans une mémoire, je pense, avec une très grande, un profond malaise de la part du regard occidental sur cette question, puis aussi une mémoire très revendicatrice probablement de la part des jeunes femmes issues de la post-colonie, disons. Voilà à peu près ce que je voulais poser sur mon bouquin. Maintenant, je vais repasser la parole au modérateur, je pense, pour qu'il renvoie.
Merci beaucoup, du coup, pour ces différentes interventions. Alors, ce qu'on voulait d'abord lancer, ça va être une question un peu générale. On en aura des plus précises, mais c'était justement pour essayer de lancer une discussion collective entre vous trois. Et la question un peu basique, c'est de savoir, en lisant finalement le texte des autres intervenants, c'est-à-dire en vous prêtant un peu à ce jeu-là, est-ce que vous y avez vu des résonances avec vos propres textes, voire même est-ce que la lecture d'un des autres articles a donné un éclairage nouveau à votre objet d'étude, quoi. Voilà, donc c'est une question peut-être qui est un peu complexe. On pourra les préciser après. Je ne sais pas si vous voulez déjà.
Moi, je reviens à Émilien, puisqu'on m'invite gentiment, mais j'ai rien écrit, donc c'est pratique. Hein, je suis admiré à ma manière, mais j'ai rien fait, moi. Et comment dire? Déjà, moi, j'ai été extrêmement intrigué à l'idée de voir ce que Émilien pouvait ressortir d'une rencontre avec le bachelor. Donc, et en fait, je fais rapidement l'histoire de ce qu'a fait Émilien. Émilien me fait signe, il me dit blabla, on a deux, trois copains en commun, etc. Est-ce que tu pourrais éventuellement me rencarder des gens dans le monde de la SAP? Je lui dis, bah, écoute, on va aller voir le bachelor. Le bachelor est très très accessible. Voilà. Donc la rencontre s'est faite très très facilement, et puis après, je les ai laissés se débrouiller. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est de voir à la lecture, en fait, hein, de ce que proposait sa très très belle retranscription des diatribes, hein, du bachelor, du sapeur, c'est que finalement, Émilien avait succombé au verbe du sapeur. C'est-à-dire qu'à mon avis, avec l'idée d'aller voir les sapeurs pour faire un article, pour proposer une sorte d'analyse, quelque chose comme ça, son papier s'était transformé en carte blanche, un petit peu émerveillée, à la parole. Tu nous diras peut-être, Émilien, tout à l'heure, du voiture l'ordinaire.
Bah, juste sur ce sujet, moi, au départ, je partais pas. C'est pas le sujet qui m'enthousiasmait le plus, parce que, justement, cette espèce de paraître absolu, de chez certains sapeurs, il y a aussi le culte de la marque. Enfin, il y a tout un truc qui pouvait m'apparaître intéressant à creuser, mais qui n'avait pas forcément envie de tant mettre en avant. Et finalement, on a rencontré pas tant que ça. Finalement, je sais pas, j'ai dû en rencontrer trois. Mais le bachelor directement, c'est quelqu'un de, je sais pas, qui a une manière de parler, qui a une manière de même de transcender. Il a ce look absolument dément qui change tous les jours avec, je sais pas, des nœuds de cravate ultra élaborés. Enfin, tout est pensé des pieds à la tête. Et il a en même temps, et puis en plus, ça vaut cher. Et puis c'est, enfin, il y passe toute sa vie et ça pourrait paraître stupide. Et puis quand tu vas le voir dans sa boutique, il a vraiment tellement un recul sur lui. Il a tellement, je sais pas, quelque chose de aussi de l'ordre de l'humour, d'une manière d'en parler, d'une manière de. Il se prend au sérieux, mais sans se prendre au sérieux. Enfin, dans le CD de la revue, il y a une 3 minutes où c'est Céline, qui je crois est pas là ce soir, en fait, qui est pas croisée, qui a proposé d'ailleurs ce thème de Émilien, enfin moi, rhabillé par le bachelor. Et ce qui est complètement absurde, parce que voilà, moi j'étais très mal à l'aise les rares fois où j'interviens, ça se sent, mais enfin, c'est pas l'important. Lui, il est dans une espèce de diatribe où il me rhabille, ça peut être n'importe quoi, le nœud de cravate, la couleur du gilet, tout ça. Il part sur des anecdotes. Et je sais pas, il y avait 2 heures d'enregistrement, on en a gardé 3 minutes où ça se finit quand même, où lui est en train de se doucher au parfum, dire qu'il commence à se faire 2-3 petits pchits. Et puis finalement, il est tellement dans son personnage, puis il y a de la rumba congolaise qui passe, et il danse, et il se recouvre de parfum en chantant, quelque chose comme les gens se mettent du parfum, moi je me douche au parfum, et c'est sans fin, ça dure presque un quart d'heure comme ça. Et c'est vraiment, enfin je sais pas, c'est... Après, voilà, justement, tous les thèmes qui seront abordés ce soir, je pense que moi je suis périphérique, c'est-à-dire pour ça que toi, c'est bien que ce soit toi qui en parle, parce que... Moi, c'est vraiment juste aussi la voix, la manière de le verbe, la manière dont parler. Enfin, moi, je me retrouvais plus là-dedans, mais c'est. Est-ce que tu en parles aussi bien dans ton livre ? Enfin, c'est comme ça que j'y suis arrivé finalement. Donc, mais donc, passez voir le bachelor, et ce sera une belle rencontre.
Voilà, je reprends la parole juste quelques secondes pour dire ma lecture des articles. Alors tout d'abord le texte sur Frida Kahlo, donc qui est rédigé, qui est un texte très littéraire. Il est très très beau. Je dis pas ça pour te flatter, mais c'est super de pouvoir dire ça aussi. En public et avec la prouesse quand même rhétorique de mêler en un espace assez court quand même vraiment des éléments biographiques très très éclairants voilà sur la vie de Frida Kahlo avec cette question du vêtement et de réinvention de la peau hein, avec suite à cet accident à ce traumatisme très très survenu très 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 très, très jeune et moi à la lecture de ton entretien qui est un entretien de très très haut niveau alors déjà je me suis dit Jeff Clack ils vont loin voilà quoi mais ça c'est bien je me suis vraiment concentré en fait sur la part sur la licence que tu pointes de manière très forte du christianisme concernant la chose vue la chose montrée et le regard en ce sens on peut se poser la question des origines ou d'une part chrétienne inhérente à la SAP. Et un jour, j'ai demandé au bachelor, je lui ai dit, mais toi, t'es pas un peu chrétien, etc. Il m'a dit, moi, ma première boum, c'était à l'église. Voilà. Voilà ce qu'il m'a dit. Voilà. Je vous passe la parole.
Oui, je voudrais dire quelque chose sur vos deux textes. Je les ai lus en regard. Et ce que je trouve absolument saisissant, c'est à quel point ils sont l'un rigoureusement, pas les textes dans leur texture, pas dans leur écriture, hein, mais dans leur objet, rigoureusement le contraire l'un de l'autre. Mais point par point, c'est-à-dire que l'on a une femme souffrante des hommes superbes, une femme qui s'habille pour son mec et qui se déshabille pour son mec et qui change d'habit pour son mec, etc. Des hommes où il n'y a pas l'ombre d'une femme dans l'histoire, au point que c'en est quand même gênant à un moment. Dans le texte, on se demande où sont les femmes, quoi. Vraiment, c'est pas dans le texte. Ah, pardon. C'est pas seulement que ce soit un univers d'hommes, c'est que c'est un univers où il y a, enfin je trouve, c'est pas le premier article que je disais sur les sapeurs, et les deux fois je me suis fait cette réflexion, c'est pas seulement que ce soit un univers d'hommes, c'est qu'on a l'impression que c'est un univers où les femmes sont absente et quelque part ailleurs probablement en train de gagner le fric pour que les hommes s'habillent. Mais d'une façon, il y a quelque chose que, quand même de cet ordre, quoi. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les femmes sont dans une sorte de truc. On les imagine dans des ateliers de confection, ou plus probablement nounou d'ailleurs, peu importe. Mais on les imagine vraiment en train de trimer très 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 loin derrière. Et jamais du côté de la visibilité, tandis que bien sûr chez Frida Kahlo c'est du côté de la visibilité. Donc juste dire à quel point les choses littéralement s'emboîtent dans une lecture un tant soit peu puis aussi bien sûr sur la question coloniale, c'est-à-dire que Frida Kahlo revendique dans les années 20-30 etc., si je t'ai bien lu, la rémanence d'habits que les colons espagnols ont toujours voulu supprimer parce que trop vieux, trop voyant, trop beau, etc. Et puis probablement aussi, selon les colons, j'imagine, plus ou moins trop érotique ou tout ce qu'on veut de ce genre, trop sensuel. Et la mémoire coloniale, elle est d'affirmation indigène, tandis que la mémoire coloniale chez les sapeurs, elle est de subversion des modèles occidentaux. C'est une subversion géniale. Formidable, mais ça vous le dit tous les deux très très bien, quoi. C'est la subversion du dandysme tel qu'il a été mis en place entre Baudelaire, Oscar Wilde ou quelque chose comme ça. Donc là encore, il y a une opposition vraiment totale, enfin une sorte de comme si l'un était le négatif de l'autre. Je dirais pas lequel est le négatif duquel, d'ailleurs, j'en sais rien, mais comme si l'un était vraiment le négatif de l'autre. Je voulais faire état de cette surprise à quel point vos deux textes fonctionnent bien d'une certaine façon en écho, mais par un jeu d'opposition.
Je voulais juste faire un commentaire sur la question des sapeurs, parce qu'on en a parlé, on en parle dans un contexte qui est le contexte français, parisien, finalement assez gai. Bon, il faut quand même resituer le sapeur dans le contexte du conflit, parce que sinon c'est difficile à comprendre en réalité. Le sapeur, c'est le même geste que la bloc party jamaïcaine puis new-yorkaise, c'est-à-dire c'est à un moment donné un usage aussi qui tente de gérer la possibilité d'avoir un autre type de joute que des conflits armés. Les sapeurs à Kinshasa, c'est dans des quartiers où c'est quand même assez dangereux, et ça a été quand même une volonté de réguler la violence interne, d'où la grande présence des hommes, hein, qui étaient quand même les porteurs des violences. Mais quand on en voit au Congo, on voit aussi en présence de femmes dans des bars, donc c'est aussi une technique de drague basée sur la question de l'argent, hein, où on quand même le mouvement de SAP, c'est quand même montrer les étiquettes des marques pour montrer qu'on a vraiment des marques. Hein. Mais cependant, le point de départ est vraiment la question de l'autogestion de la régulation de la violence, quoi. Le sapeur, c'est quand même au départ aussi un geste qui dit trouvons d'autres modalités presque à la rigueur esthétique positive, comme les battles vont naître dans les blocs parties. Donc de faire des gestes qui sont à la fois, parce qu'on les voit de manière très fantaisiste ici, il faut vraiment s'imaginer le contexte congolais où c'est des coins où ils ont beau être habillés de manière très bariolée, t'irais jamais dans les coins, quand même dans endroits qui sont quand même très 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 compliqués. Et qui est vraiment la base à Kinshasa, dans les quartiers, la base des sapeurs, habillés, aussi bien habillés qu'à Paris. Mais quand on est au Congo, dans des quartiers très difficiles, c'est encore plus étonnant, je dirais, parce que là, on se dit que c'est un geste qui tente, de par même les habits et leur côté inconfortable pour la bagarre, à annihiler la possibilité qui est sans cesse, en fin de soirée, des affrontements meurtriers. Donc il y a quand même cette fonction-là qui est quand même qu'il ne faut pas complètement évacuer du sapeur et pas en voir qu'une figure gay. C'est aussi une figure qui est très associée à la question de la violence et à sa régulation.
Avec des différences très très fortes quand même entre Brazzaville et Kinshasa. avec le Congo-Brazza, qui a été un pays marxiste, avec les sapeurs qui ont été très très longtemps censurés là-bas et qui sont venus à Paris. Moi, en fait, comment j'ai découvert la SAP ? J'étais très très jeune, simplement, j'ai fait mes études à Rennes, et le penseur, on va dire, le mec qui a vraiment écrit des belles choses sur la SAP, s'appelle Daniel Justin Gandoulou, il est enseignant là-bas. Voilà. Et lui, il a été persona non grata là-bas pour ses premiers bouquins, notamment son premier bouquin, Dandy à Bas-Congo, qui a expliqué bien ça, des gamins en situation d'échec scolaire qui venaient à Paris pour s'affirmer par l'image, par l'esthétique, par le paraître, etc., qui souvent travaillaient pas, volaient des fringues, etc. Voilà. Donc, la part politique, tu as tout à fait raison. C'est compliqué, la SAP. Hein. C'est un nœud à faire éclater. Il y a mille significations. Donc, c'est bien de partir sur ce terrain. C'est vrai que c'est la base. Voilà. Alors, simplement, peut-être que le sapeur de Brazza, il y a un poil un peu plus réac, c'est de la variation sur du costume. Et le mec de Kinshasa, c'est la pop attitude totale, c'est Papa Wemba, c'est Stervos Niarchos. Là, il y a une série de photos superbes au palais de Tokyo où on les voit telles des vanités contemporaines live, somptueuses, au milieu de tombes, dans des cimetières. C'est juste magnifique. Voilà. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Donc, par où commencer ?
J'ai un micro juste ici pour dire si des gens veulent intervenir, qu'ils fassent signe aussi.
Je veux juste réagir un petit peu aux commentaires et vos interventions. Alors moi je sais pas si c'est suffisamment clair dans mon article, mais moi j'y vois une vraie revendication féministe aussi dans la façon dont Frida Kahlo va s'habiller. Effectivement, tu parlais de la sensualité hein, des tenues issues de l'artisanat populaire mexicain qu'elle porte. Il y a une certaine forme de sensualité, de féminité, et c'est vrai qu'elle change de fringue en fonction des vicissitudes de sa relation de couple avec Diego Rivera. Mais le fait d'être la première artiste à se représenter dans une toile, dans un autoportrait en homme, en costume d'homme, avec les cheveux coupés, il y a, enfin, pour moi, une vraie revendication féministe. Et pour faire un parallèle avec les sapeurs, on est vraiment dans le vêtement comme outil. Enfin, on est dans la représentation théâtrale aussi chez Frida Kahlo. Tu parlais de l'avènement de la photographie, de l'importance des images. Chez Frida Kahlo, c'est extrêmement important. Son père est photographe. Toute sa vie, elle s'entourera de photographes. Gisèle Freund, Edward Weston, Tina Modotti. Elle aura une relation également avec Nicolas Murray. Donc la photographie, c'est extrêmement important pour elle. Et des petites, du fait des photographes qu'elle a dans son environnement familial, elle a une conscience aussi de l'image. L'œuvre de Frida Kahlo, elle est composée quand même à 47% d'autoportraits, hein, ce qui est quand même énorme. Donc elle est vraiment dans la représentation d'elle-même, et les vêtements qu'elle porte, ils sont choisis, c'est des choix délibérés à travers lesquels elle raconte des choses sur elle, sur ce qu'elle est, sur son identité. Et Emilien, je voulais juste dire que, enfin, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à lire la transcription de ton interview, parce qu'il y a une même, enfin, au niveau du texte, de la transcription, il y a une musicalité. Enfin, moi je l'entendais parler, c'était vraiment savoureux.
Du coup, pour ouvrir le débat, enfin, peut-être à tous les gens qui sont là, s'il y a peut-être des questions, moi ce que je vois, c'est des puissances d'agir en fait, des choses. C'est ce qu'on a essayé de faire avec Jeff Clark, c'est ce truc de se dire. Les vêtements sont rarement questionnés sur des angles politiques, sur des angles qui soient pas des trucs de mode ou des choses intimes que personnelles. Là, on a voulu montrer qu'il y avait une dimension sociale, une dimension politique aux vêtements. Et moi, je pense que ce soit, enfin, chacun des trois articles raconte ça, cette puissance d'agir à un moment donné pour des choses souvent contraires ou différentes ou avec des histoires très diverses. Mais à chaque fois, il y a ça. Il y a comment le vêtement, sans le voir venir, sans forcément qu'il y ait un discours, alors peut-être plus avec le Bachelor ou Kahlo, mais sans forcément qu'il y ait un discours. En tout cas, il y a déjà quelque chose qui se dit tout de suite sur la vue, sur le regard, sur qu'est-ce qui se passe quand on sort dans la rue, quand on décide de s'habiller le matin et de se déshabiller le soir, qu'est-ce qui se passe là, qui ne concerne pas juste ma petite personne. Et du coup, je sais pas si peut-être plus en mode discussion que question, s'il y a des gens qui veulent intervenir sur des expériences ou des...
Alors peut-être avant, je peux peut-être en poser une, je ne suis pas dans le public, mais... Non, parce que ça me travaille depuis tout à l'heure, là. Donc, en fait, Nassim, tu as opposé donc deux textes point à point, mais dans ton intervention au départ, tu as opposé ton texte ou la question du voile aux questions qui se posaient chez Frida Kahlo et chez les sapeurs, et tu as parlé de la question du nu. Et que la question du nu ne se posait pas par rapport au voile. Pourtant, et là je rebondis un peu sur ce que Ferdi vient de nous dire sur cette question du regard, ton livre fait une histoire du regard et nous montre des tableaux, enfin une peinture orientaliste très connue quand même, qui va dévoiler des femmes et qui va montrer des femmes habituellement, enfin dans ce contexte social, qui sont nues et qui pourtant sont dévoilées par le peintre orientaliste, souvent français. Est-ce que tu voudrais intervenir cette question de, que je comprends pas bien, nous dit que la question du nu ne se pose pas dans le voile. Comment comprendre ça par rapport à l'histoire de cette peinture et l'histoire de ce dévoilement ?
Oui, merci de cette question. Oui, j'ai effectivement été trop vite. J'ai en effet loupé une étape. C'est-à-dire que la question du nu se pose bel et bien. Elle est soulevée par le regard occidental qui, à partir du milieu du 19e siècle, sous le couvert de la peinture orientaliste, se met à faire des séries de peintures dans lesquelles on voit, d'abord de peintures, puis ensuite de photographies, dans lesquelles on voit des femmes qu'en fait les peintres n'ont jamais vues, telles que, mais où l'on voit des femmes être déshabillées ou déshabillées, c'est-à-dire nues, tenant leur voile. Alors il y a deux grandes séries, enfin j'analyse deux grandes séries en particulier. C'est d'une part des scènes de hammam, où évidemment aucun artiste orientaliste n'a jamais été dans un hammam le jour des femmes, il aurait été zigouillé le jour même, mais fait croire qu'il y a été, c'est-à-dire que le contrat imaginaire, c'est pas un contrat autre qu'imaginaire, c'est que retour d'Algérie ou retour de Syrie ou retour d'Istanbul, il montre ce qu'il a vu. Et ce qu'il a vu, ce sont des femmes toutes nues dans des hammams avec des voiles plus ou moins entassées un peu partout. Puis il y a un autre grand thème iconographique encore plus pénible d'une certaine façon, c'est la vente d'esclaves. Alors là, il y a plein de ventes d'esclaves. Il y en a rien que l'artiste orientaliste Jérôme en a fait au moins 5, où là, on voit en pleine rue ou dans une espèce de marché à ciel ouvert, des femmes nues, derrière un marchand d'esclaves qui tient le voile, qui tient les vêtements voilés. La femme est nue, elle pleure un petit peu, et puis il y a deux ou trois Arabes qui s'apprêtent à l'acheter, donc qui la tâtent, la regardent, la matent, etc. Très bien peint, donc c'est une peinture très officielle. Bon, alors là, bien sûr, il y a un lien entre, dans le regard occidental, il y a un lien, une sorte de désir permanent de voir ce que ces femmes cachent sous le voile. Puis ensuite, avec l'introduction de la photographie, il y aura d'une part une photo pornographique qui me choque pas plus que ça, d'abord parce que d'une manière générale, j'ai pas de raison d'être particulièrement choqué par la pornographie, et d'autre part parce que il y a énormément de photos pornographiques porno au début du 20e siècle. Elles sont prises dans des conditions prostitutionnelles qu'on connaît relativement bien. Elles mettent en jeu des vêtements qui peuvent être des vêtements du type voile dans le monde colonial, arabe, mais qui peuvent être aussi bien des vêtements chrétiens. Il y a par exemple tout ce qu'on veut avec des bonnes sœurs en train de se faire, etc. Donc on ne peut pas dire que ce soit particulièrement choquant au regard de la production pornographique de montrer des femmes dévoilées dans ce contexte, qui est un contexte par définition secret et privé. En revanche, il y a quelque chose qui n'existe pas en Europe, qui n'existe pas ailleurs, c'est la carte postale. Et là, c'est drôlement plus gênant, les cartes s'appellent type d'Orient, type arabe, Mouker, etc. Et on y voit des femmes torse nu, torse nu, avec leur voile de pudeur autour des reins ou autour des seins, mais des nus dans les seins. Et là, tout se passe comme si c'était les femmes qu'on voit voilées, on les voit dévoilées. Enfin, je ne sais pas si je me fais comprendre. Ce n'est pas la même chose de postuler dans un truc totalement interdit, totalement secret, des prostituées qui sont dans leur boulot de prostituée, ou de postuler votre voisine du dessous, votre crémière, que vous n'avez jamais vu que voilée, de la postuler torse nu, etc., en mettant la femme d'en bas, quoi. C'est pas la même démarche. Et puis, c'est pas la même démarche de vendre ça sur des présentoirs de cartes postales dans le lieu, genre souvenir d'Alger avec une femme humiliée. milliers, il n'y a pas d'autres exemples, d'acheter dans un bordel, d'une manière tout à fait privée, underground, secrète, tout ce que vous voulez, quelques images pour un plaisir solitaire. Donc ça ne me paraît pas être les mêmes réseaux, alors même que les images fonctionnent. Donc, merci encore, ça m'amène, cette généreuse question m'amène à mettre les points sur les i. Bien sûr que dans le regard occidental, à l'époque, et je l'explique dans mon bouquin, il y a cette alternative voilée nue. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'elle ne me paraît pas être réactivée aujourd'hui, et particulièrement pas réactivée aujourd'hui en Europe occidentale ou aux États-Unis. C'est-à-dire, je suis prof de fac, comme ça a été dit. Une des raisons pour lesquelles j'écris ce bouquin, c'est pas du tout lié à ma pratique de prof, et ni même d'ailleurs à mes étudiantes, parce qu'il se trouve que dans mes amphis, par hasard, elles ne sont pas voilées ou elles n'ont pas encore été voilées. Mais je veux dire, je n'ai pas encore eu d'étudiantes voilées. Pour des raisons qu'on peut expliquer, mais peu importe. Mais dans ma fac, il y a un petit groupe d'étudiants de voilée. C'est en les voyant comme ça que je me dis, en fait, ça se voit. Enfin, avant tout, le voile, ça se voit. Et croyez-moi, zéro fantasme, je veux dire, ni de ma part, ni de la leur. Le voile, en ce moment, tel qu'il est pratiqué par des jeunes femmes, par exemple, par des étudiantes, et pas dans une alternative au nu, tandis que, j'y reviens, dans le texte, je pourrais, enfin si je l'avais sous les yeux, je pourrais lire le passage, dans le beau texte de votre camarade, c'est page 100, si mes souvenirs sont bons. Voilà, d'ailleurs, pour ne rien te cacher, je te trouve toi aussi, il s'agit de votre ami, je suppose, puisque c'est un verbatim, d'ailleurs, pour ne rien te cacher, je te trouve toi aussi un peu blafard, tu as le look de quelqu'un qui se laisse aller, qui s'habille pour cacher son sexe, tu te couvres, eh bien non, je refuse. Donc décoder, ça veut dire qu'ils s'habillent pour pas cacher leur sexe, vous êtes bien d'accord, je veux dire, le verbatim n'est pas de moi là. Quant à vous, alors j'ai pas retenu la page, quant à toi, j'ai pas retenu la page parce que j'ai... Mais tu indiques qu'elle a eu, tu l'as pas refait, que la pauvre Frida Kahlo, elle a eu son affaire d'autobus avec le vagin transpercé. Donc là encore, ça renvoie vraiment au sexe génital, et dans les... Je reviens sur mon truc. Donc c'est en ce sens que je répondais que ce n'est pas la même chose. Dans le fantasme ancien, oui, mais dans les actualités des sapeurs et de Frida Kahlo, pour autant qu'on puisse parler d'une actualité de Frida Kahlo, je crois que y a vraiment quelque chose qui fait ressortir le sexe, qui fait ressortir le nu sexué chez les sapeurs et chez Frida Kahlo, et qui en ce moment ne fait pas ressortir le nu sexué chez les nanas qui se voilent pour aller à la fac ni même chez celles qui mettent une jupe Kaby.
Enfin, juste pour rebondir sur le nu, c'est assez. Dans la production de Frida Kahlo, en fait, de véritables nus, il me semble qu'il n'y en a qu'un. Donc il y en a très très peu, en fait, hein, à quel point elle privilégiait en fait, le vêtement. Donc il y en a très très peu du nu.
Alors métaphoriquement, la question du nu chez les sapeurs, c'est quoi? C'est qu'ils sont nés sapés, et ils parlent d'ailleurs de leur costume de naissance. Voilà.
Oui, je voulais aussi répondre par rapport au nu. Que finalement, c'est bien grâce et avec le vêtement qu'on peut parler vraiment de la nudité telle qu'elle est. Je crois que Roland Barthes disait à un moment une très belle phrase sur l'érotisme, qui disait que l'érotisme d'un corps se situe là où le vêtement bâille, justement. Et j'ai trouvé ça assez étonnant et assez pertinent, puisque dans le dévoilement total, il n'y a plus de fantasme, et je pense que le vêtement joue sur l'imaginaire et le fantasme du corps. Voilà, je voulais rajouter cette précision, et ça faisait écho à ce que disait. Et quand on parlait aussi de la mode en tant que autrement, en tant qu'objet politique et de revendication, c'est Barthes aussi en parlait. Il parlait beaucoup de la mode, et justement ça le questionnait autrement, le vêtement, comment il est perçu autrement que par l'individualité, comment il est perçu en collectivité, justement, au sein d'une société définie, une civilisation.
C'est une vaste question. C'est pas peut-être sur Barthes s'il y en a qui veulent réagir ou ailleurs dans la salle. Ouais.
Moi, j'ai lu une histoire du striptease en fait de Laurent de Sutter qui est assez passionnante. Et justement, enfin, il disait par rapport à la nudité en fait que le nu il est jamais aussi subversif que lorsqu'il n'est pas intégral. En fait, il y a toujours dans le striptease une partie qui reste cachée, quelque chose qui va. Le texte s'appelle le striptease, l'art de l'agacement. Donc voilà, donc c'est qu'il y a toujours quelque chose qui va rester caché, qui va titiller, qui va. Voilà, donc qui, voilà, le nu intégral n'a aucun intérêt voilà, pour.
Alors, peut-être pour relancer un peu, moi, on s'est posé la question avec Mathieu, ce qui nous a frappé dans les deux articles sur Frida Kahlo et les sapeurs, c'est que, alors, chez Frida Kahlo, il y a cette question de l'art qui est évidente. Chez les sapeurs, la question de l'art commence à se poser. Enfin, d'une certaine manière, parce que tu nous as parlé de cette exposition au Palais de Tokyo en ce moment sur les sapeurs. Donc là, finalement, c'est un regard extérieur qui va constituer les sapeurs en œuvre artistique, contrairement à Frida Kahlo, qui va se constituer elle-même en œuvre artistique, telle que je le comprends. Donc c'est uniquement dans la performance. Et...
Non, mais oui, ce sont des performeurs.
Mais c'est aussi des régimes de présence, pour juste citer... le chorégraphe Faustin Nyekula, qui est donc congolais, il est retourné aussi réinvestir au Congo des espaces dédiés à la danse. Donc c'est quelqu'un qui a travaillé en Europe et qui travaille encore en Europe, mais qui a décidé, comme d'autres, de reconstruire des possibilités performatives. Donc là, il est danseur à Kinshasa principalement. Il disait voilà, en fait, l'avantage qu'il y a avec Kinshasa, il dit, c'est que de toute façon, un spectacle, ça doit être au-dessus du niveau de ce qu'est la rue. C'est comme ça qu'on sait qu'il y a un spectacle. Il dit, vous, l'art, vous savez pas trop. Nous, on sait qu'il faut dépasser le niveau de la rue pour qu'il y ait spectacle. Sinon, les gens vont pas venir. Et il a une problématique très sérieuse, en plus, de se dire, le spectacle vivant à Kinshasa, c'est un peu compliqué, hein, parce que tu dis, il faut quand même se bagarrer avec une production performative de la rue qui est très puissante. Et donc, c'était intéressant aussi pour réindexer la question de l'art comme régime qui doit être un peu au-delà de ce que le réel produirait au quotidien. Donc, là-dedans, les sapeurs sont donc déjà une espèce de niveau d'échelle qui va définir ce qui est art. C'est ce qui est au moins au-dessus d'un sapeur.
Peut-être pour revenir sur le voile. Alors j'ai pas lu l'entretien, mais j'avais lu votre livre là, et j'ai trouvé ça que c'était vraiment un contre-pied, pas forcément un contre-pied, mais en tout cas un pas de côté par rapport à tout le débat qu'on subit en Europe, notamment sur les filles voilées, etc. Et moi, ce que je crois observer, c'est que l'esthétisation, elle arrive, en fait. Il y a une nouvelle tendance, parce qu'il y a effectivement des voiles qu'on relie à une imposition, je dirais pas religieuse, mais je dirais politique ou sociale, traditionnelle ou de régime défini. Et il y a un entre-deux, il y a une circulation comme ça d'une appropriation esthétique. Dans certains pays, je pense à la Turquie notamment, où il y a une représentation du coup de la femme qui se fait voiler, etc. Et c'est un accessoire de mode assumé, alors pas transgressif, mais qui décale aussi le regard, etc. Après, j'ai trouvé que c'était intéressant, mais on est toujours dans une espèce de confrontation Occident-Orient sur le regard et le non-regard, sur l'invisibilité, la visibilité. Et ça, c'était et c'est évidemment la force de votre démonstration, c'est d'avoir montré que ce qui est une volonté d'invisibilité, de rendre invisible dans certains pays musulmans, et ici un objet de revendication. Alors il n'y a pas vraiment de question derrière, mais il y a aussi cette dimension esthétique et puis de réappropriation d'une forme d'esthétisme, de féminité, si on veut, mais à travers l'objet du voile.
Oui, merci. Bien sûr qu'il y a ça, et c'est relativement récent, et je pense que c'est la dimension, d'une certaine façon, la plus subversive du voile. Et elle est subversive, je pense, dans deux contextes qu'il faut quand même vraiment séparer. Il y a d'une part... des ports de voile dans les pays. Moi, je pense que c'est très très important de faire la différence entre les pays où le port du voile est obligatoire dans un système légal et globalement quand même patriarcal, en tous les cas légal, et les endroits où le voile est facultatif, voire quasi interdit, comme ou enfin, disons, aux marges de la légalité. Et dans les deux cas, je pense que ces voiles coquets sont subversifs, mais pas de la même manière. C'est-à-dire que ce qu'on voit, alors c'est pas des pays. Si je connais la Turquie, je connais pas personnellement l'Iran, mais ça se voit très bien au cinéma, puis c'est très raconté aussi par les iraniennes. Ce sont des façons subversives de porter le voile le plus élégant possible, le plus joli possible, pour être joli malgré tout. Donc là, c'est une subversion de la bigoterie ambiante qui ressemble énormément à la manière dont, en Occident, dans des milieux ultra-catholiques, par exemple, des femmes pouvaient essayer d'avoir des petites coquetteries, ou à plus forte raison, ça fait bien sûr penser à des passages de la religieuse de Diderot, où le personnage raconte comment elle subit le voile du couvent et elle s'arrange pour le porter le plus joliment possible. Donc ça, c'est une subversion. Et puis il y a l'autre aspect qui, dans les pays où le voile est un acte libre, me paraît encore plus subversif d'une certaine façon, ce sont les filles qui, en ce moment, mettent un voile non bigot. Parce que faut quand même être clair, je veux dire, c'est ces filles qui mettent des voiles grisâtres, machin, tels qu'on peut les voir dans des... par exemple dans des universités ou dans le tour, c'est entre autres quand même ce qu'on appelle des bigotes. Alors j'ai pas fait de sociologie, j'ai pas non plus une tendresse immense, hein, je défends pas particulièrement le voile. Je pense que globalement, pour moi, c'est l'équivalent des Versaillaises en jupe plissée, c'est-à-dire des femmes avec lesquelles j'ai pas particulièrement envie ni de passer mes vacances, ni même de boire un verre. J'ai pas d'allant, quoi, j'ai pas de sympathie pour ce genre d'expression. Et mon bouquin n'a rien d'une défense de ça. Hein. Mais celles que je trouve vraiment malines, ce sont les vraiment, vraiment amusantes, ce sont ces jeunes femmes qu'on voit maintenant qui sont super apprêtées, avec des voiles et puis des hennins, des machins, des formes incroyables, des voiles totalement surmaquillées et qui là, ça me paraît très subversif parce qu'elles jouent vraiment le jeu de la mode et elles jouent vraiment le jeu, alors c'est des sapeuses, elles jouent vraiment le jeu des intérêts financiers occidentaux, etc. Donc elles, bien sûr qu'elles sont très respectables parce qu'elles y mettent du fric et qu'on sent bien qu'il y a des marchés, etc. Donc très, très vite, elles vont retourner les capitalistes, enfin je sais pas, je dit de façon un peu grossière, mais si vous voulez, quand elles achèteront bien leur voile là où il y a du fric à faire, elles auront tout d'un coup comme alliés des marques de tissu, pour le coup. Enfin, vous voyez, et là, je les trouve très subversives, quoi, parce qu'elles jouent à quelque chose qui est où elles mettent la tolérance occidentale en complet porte-à-faux. Les bigotes en gris, non, les pauvres, elles revendiquent une espèce d'islam sinistre. Exactement, mais je dis ça, enfin, je veux dire, si, exactement comme les, je répète, quoi, exactement comme les cathos de la manif pour tous, ou je sais pas quoi, revendiquent ce qu'il y a de plus sinistre à mes yeux, en tous les cas, dans le catholicisme, ou comme des juifs à perruque revendiquent ce qu'il y a de plus triste dans le judaïsme. Voilà, quoi, c'est ces femmes qu'on rend moches,
Moi, j'aurais une question à te poser. C'est est-ce que, et je pense qu'on, je me demande si on peut pas se poser exactement la question de la même manière pour la SAP. C'est est-ce que ce voile n'a pas plusieurs interlocuteurs? Est-ce qu'il signifie pas la même chose? Est-ce qu'il signifie pas deux choses différentes pour une communauté extérieure et à l'intérieur de la communauté? Est-ce qu'il a pas plusieurs signifiants, en fait? Et comme j'imagine, la SAP ne dit pas la même chose à quelqu'un qui est à l'extérieur du monde de la SAP et à l'adversaire au sein du monde même de la SAP.
Et au blanc. Et au blanc. Non, je te laisse.
Oui, je veux pas accaparer, mais je peux répondre assez vite. Il a évidemment plusieurs significations, mais je voudrais, c'est pas mon intérêt, parce que mon intérêt, c'est d'essayer de vous convaincre que mon bouquin est passionnant, mais je pense aussi, et au fond c'est aussi une chose que j'ai essayé de faire dans ce bouquin, je pense qu'il faut dégonfler un peu le problème, et un des moyens de le dégonfler, c'est de le comparer. Donc bien sûr que c'est polysémique, mais les freins que c'est polysémique, on a tous, dans cette salle, on a tous, moi compris, toutes sortes d'affichages polysémiques. La barbe qui est super à la mode en ce moment, il y a un représentant sur deux à peu près, un homme sur deux en est représentant dans cette salle, c'est polysémique la négligence affectée, l'affectation de négligence, la mode qu'on suit de manière moutonnière, probablement quand même une influence de l'islam, une influence des milieux gays. Enfin bon, bref, il y a une immense polysémie aussi dans un truc aussi simple que décider de pas se raser, comme par hasard juste en ce moment, quoi, avec une fréquence où le t-shirt en coton, ça, moi aussi j'ai après tout un affichage polysémique vestimentaire si on interprète. Et je pense que le voile en Europe occidentale ou aux États-Unis, il est dans cette polysémie là, c'est-à-dire qu'il est aussi dans une polysémie banale. Où elles sont rien, quoi. Je veux dire, enfin, elles sont entre le hasard, le suivisme, une vague revendication, le sens de la mode, l'envie de. Vous voyez ce que je veux dire, c'est.
Non, mais concernant la SAP, effectivement, bah, de la même manière, le discours est polysémique. Alors, ce sur quoi on pourrait se concentrer, c'est. Tu as très bien pointé tout à l'heure, évidemment, l'origine politique de la SAP, mais aujourd'hui, on pourrait suggérer, non seulement de manière, on va dire, tendue, le questionnement politique du processus capitaliste. C'est aussi pour ça qu'ils exhibent les marques. Ça, c'est très, très intéressant. C'est comme si, finalement, les sapeurs avaient toujours un temps d'avance dans l'exhibition de ce que nous sommes. Voilà. Et ça, c'est très, très beau. Je conseillerais aux gens qui s'intéressent à la question de la SAP les petits DVD qui s'appellent les allures. Très, très belle expression, avoir de l'allure. Eux, ils appellent ça les allures. Ce qui est très intéressant, ce sont les sapeurs qui se représentent comme sapeurs dans ces petits DVD qu'on trouve dans les boutiques là, à Château-Rouge. Moi, j'ai vu un petit documentaire passionnant. Il se pointe chez Gianfranco Ferré, une bande de sapeurs. Question au directeur de la boutique Gianfranco Ferré à côté des Champs-Élysées. Comment est-ce qu'il faut faire pour être élégant? Comment est-ce qu'on porte le costume? Je fais le pari que personne entre des gens qui sont là ce soir aurait obtenu l'entretien. Mon pari est le suivant. Le mec s'est dit, ces mecs-là, ce sont des bons clients. Personne ne verra les DVD. Je leur réponds sur la pointe des pieds. C'est ce qui s'est passé. C'est très intéressant. Là, on rentre dans des problématiques plus fines, dans des problématiques politiques, mais un petit peu autres. De la même manière, ils s'achètent des pompes de luxe, ils adorent ça. Les Weston, par exemple Jean-Louis Samba, que j'adore, qui bosse chez Connivence, il en a 30 paires. Et lui, il a des pudeurs. Il dit, je ne suis pas vraiment sapeur, moi. Il a des petites chaleurs, il a des petites vapeurs. Je ne suis pas vraiment sapeur. Chez Berluti, qui est l'une des marques dont il raffole, il y a un modèle. Quand j'avais écrit mon bouquin, je suis allé voir. Le pitch marketing pour le bouquin, pour les pompes, c'est des chaussures scarifiées pour les princes d'Afrique. Ça a dégueulé, ça ne veut rien dire. Bien sûr que c'est immonde. Mais oui, mais c'est là-dedans. Là, on rentre vraiment dans la sape. Là, on rentre dans la SAP telle que moi, elle m'intéresse intellectuellement. Voilà, c'est juste un petit exemple. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question de la polysémie, mais elle est, la polysémie politique, elle est là aussi. Il y a un mec là à Lille qui a fait un black, hein, qui connaît bien la SAP, qui a fait sa thèse sur la relation entre les sapeurs et les marques. Donc c'est une question très, très... Il y a énormément de choses à dire. Finalement, la question de la SAP, c'est comme si on foutait un coup de marteau dessus et il y a le monde entier qui vient... C'est quelque chose comme ça. Dernier petit truc. Après, on va peut-être parler de Frida Kahlo quand même, hein, parce que les mecs, ils sont bavards. L'origine du mot sape est très, très ambiguë. On dit que c'est un domestique, le domestique d'une famille bourgeoise du 16e arrondissement qui s'appelait Christian Enfant Mystère. Vous voyez, hein, Christian Enfant Mystère. Bon. Qui aurait piqué quelques fringues au maître, qui aurait fait une descente. On dit descente quand on se fringue bien pour aller à Brazzaville. Et il parlait pas très bien. Et il a dit « moi bien sapé ». Et c'est devenu la SAP. Et ils en ont fait un acronyme qui est juste sublime. Là, je donne mon avis à moi. La société des ambianceurs et des personnes élégantes. À titre personnel, je trouve ça très, très beau. Et là, je fais une petite boucle avec le club des incomparables chez Raymond Roussel. Voilà. Je te laisse parler.
Je pense que chez Frida Kahlo aussi, c'est pareil, la réception en fait du look qu'elle a, c'est enfin des vêtements qu'elle porte, c'est pas du tout le même quand elle porte l'artisanat mexicain au Mexique quand elle le porte à une soirée chez Rockefeller, quoi. Donc oui, effectivement, la réception n'est pas la même et le message n'est pas le même. Et puis quand tu parlais de la collection de 30 paires de chaussures, Frida Kahlo, elle avait une collection impressionnante de vêtements. En fait, ces vêtements, ils représentaient presque l'intégralité de l'artisanat des différentes régions mexicaines. Et sa garde-robe a été tellement précieuse en fait qu'à sa mort, elle a été mise sous scellé. Et le scellé a été levé en 2004, si je ne me trompe pas. Et depuis, en fait, donc ces vêtements ont été restaurés et ils font l'objet en fait d'une exposition, et d'une exposition à part entière, comme quoi ça, enfin voilà, sa garde-robe est devenue en fait une œuvre d'art pour elle-même.
Moi, je me souviens d'une phrase, mais je ne suis plus sûre de qui l'a dite. Selon quoi Frida Kahlo, on l'entendrait avant même de la voir. Et est-ce que c'est Rivera qui l'a dit ? D'accord. Et du coup, est-ce qu'il y avait une recherche aussi sur l'idée de toucher d'autres sens, c'est-à-dire que la vue, par rapport à un affichage ?
Alors, lorsque Carlos Fuentes, en fait, il raconte en fait sa rencontre avec Frida Kahlo, effectivement, on l'entendait même avant de la voir, puisque c'était une époque où Frida Kahlo avait été amputée d'une jambe. De sa jambe droite, et en fait elle était un peu coquette jusque dans la souffrance, c'est-à-dire qu'elle l'a refusé en fait de porter sa prothèse jusqu'à ce qu'on lui confectionne des bottines, donc des bottines rouges, et celle en fait qu'elle portait à droite, donc, et qui masquait sa prothèse, en fait était agrémentée d'une petite clochette, donc en fait on l'entendait effectivement.
Peut-être pour conclure, parce que je pense qu'il fait chaud et qu'on a tous envie de boire un verre à côté, de continuer à parler à côté. Je ne saurais que trop vous conseiller, quand même, si tout le monde a envie d'être Frida Kahlo ou un sapeur ce soir, de lire dans Bout de ficelle qui se trouve là-bas, un article intitulé « Comment les artistes doivent s'habiller ?» En page, je ne m'en souviens plus, mais c'est au sommaire avec plein d'autres choses. Voilà. Donc merci à tous et merci à tous les trois. Et à bientôt.